Radio Prague, les informations.
Reprise des négociations de la commission tripartite. La Tchéquie à la rescousse de la Grèce. Journée mondiale du réfugié, la marche des parapluies organisée pour la première fois à Prague. La commission tripartite composée de délégués du gouvernement, du patronat et des syndicats s'est réunie de nouveau ce lundi pour poursuivre les négociations sur la réforme préparée par le cabinet Petr Nečas. La commission s'est réunie pour la première fois après la grève organisée jeudi dernier par les syndicats des transports contre les réformes concernant entre autres la santé publique et le système des retraites. La recherche du compromis ne sera pas facile car le Premier ministre se déclare décidé à poursuivre les réformes contestées par les syndicats. La République tchèque pourrait participer au deuxième ensemble de mesures pour sauver la Grèce menacée de faillite. La participation tchèque à ce projet pourrait prendre la forme des garanties pour les prêts et atteindrait, selon le ministre tchèque des Finances, Miroslav Kalousek, de 3,5 milliards de couronnes, 146 millions d'euros. Cependant, la Tchéquie ne verserait cette somme dans le budget de l'Union européenne qu'au cas où la Grèce ne serait pas capable de honorer ses engagements. Un centre de recherche médicale sera ouvert dans la ville de Brno, capitale de Moravie. Le projet de centre international de recherche clinique sera soutenu financièrement par l'Union européenne. Bruxelles vient de confirmer que l'Union subventionnera le projet par 104 millions d'euros, 2,5 milliards de couronnes. Le nouveau centre effectuera des recherches sur les méthodes de traitement des 70% des maladies les plus mortelles. Ce lundi s'est déroulée à Prague la première marche des parapluies. Cette manifestation a été organisée à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié. Il s'agit d'une initiative européenne lancée par le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés. Son objectif est d'informer et de sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de protéger les réfugiés des persécutions dont ils sont victimes dans leur pays, mais également des discriminations qu'ils peuvent rencontrer dans leur pays d'accueil. Le fameux char soviétique peint en rose en avril 1991 par le plasticien David Tcherny, auteur de plusieurs œuvres controversées, sera à nouveau exposé à partir de ce lundi dans le centre de Prague. C'est par cet événement que commence en République tchèque la Semaine de la Liberté organisée à l'occasion du 20e anniversaire du départ des troupes soviétiques de la Tchécoslovaquie. Le procès contre les personnes accusées d'être responsables d'une catastrophe ferroviaire a commencé dans la ville de Novyï Tchin en Moravie du Nord lors de la catastrophe provoquée en 2008 par la chute d'un pont en reconstruction sur la voie ferrée sur la ligne Prague-Ostrava dans la proximité de la ville de Studenka en Moravie. 8 passagers sont morts et 90 ont été blessés. Météo. Ce lundi, fête de toutes les quiétas, selon le calendrier tchèque, le temps en Tchéquie a été nuageux. La température ont aussi entre 17 et 21 degrés pour les maximales. Mardi, le ciel en République tchèque sera couvert à nuageux et il pleuvra par endroits. Les températures de jour ne varieront de 20 à 24 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter qui cède maintenant la parole à Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Václav Richter pour ce bulletin d'information. Nous vous en parlions la semaine dernière dans les informations. Il n'y aura pas de centre d'alerte avancé à l'attaque balistique en République tchèque, une annonce faite par le ministre tchèque de la Défense. Nous vous en parlerons en tout début d'émission. Musique ensuite, avec le portrait d'un sympathique groupe tchèque au nom très francophone, L'Arrache-Cœur, un hommage non dissimulé à l'auteur du livre éponyme. Vous en saurez plus tout à l'heure. Bonne écoute de ce programme. Il n'y aura donc pas de centre d'alerte avancé à l'attaque balistique en République tchèque, c'est ce qu'a annoncé Alexander Vondra, le ministre tchèque de la Défense, mercredi dernier. Cette installation devait faire partie du dispositif de bouclier antimissile que les Américains souhaitent implanter en Europe centrale et orientale. Pour autant, Prague veut désormais réfléchir, en coopération avec Washington, à la façon de prendre part au projet à l'avenir. Pierre Maignan.
Programme de défense remis au goût du jour en 2002 par l'administration de George W. Bush, le bouclier antimissile consiste en un système de radars et de missiles dont l'objectif est de neutraliser des tirs de missiles ou de roquettes ennemies visant les États-Unis ou leurs alliés. En Europe, le premier plan prévoyait d'implanter un radar en République tchèque et une base de tir de missiles en Pologne. À Prague, le Sénat et la Chambre des députés avaient approuvé le projet, et ce malgré une opinion publique très perplexe. Selon une enquête réalisée en 2007, 67% des Tchèques désapprouvaient le projet, tandis qu'une pétition réclamant un référendum sur le sujet avait recueilli plus de 130 000 signatures. Surtout, le projet américain mécontentait fortement la Russie, qui y voyait un système militaire dirigé contre elle. Finalement, le nouveau président américain, Barack Obama, revenait sur les décisions de son prédécesseur et annulait le projet d'implantation du radar sur le sol tchèque. Tchèques et Américains affirmaient cependant vouloir collaborer dans le cadre de l'OTAN à l'élaboration d'un programme de défense. Cette collaboration se concrétisait l'année dernière par l'annonce de la construction d'un centre d'alerte avancé à l'attaque balistique à Prague. Celui-ci ne devait être qu'un complément au dispositif que les États-Unis souhaitent désormais mettre en place en Pologne et en Roumanie. L'annulation pure et simple de ce projet, annoncée mercredi dernier par le ministre de la Défense tchèque, Alexander Vondra, marque la dernière étape en date de cette infructueuse collaboration militaire. Celle-ci devrait pourtant prendre une nouvelle forme, comme l'a déclaré le ministre.
Nous disposons parallèlement de tout un spectre de domaines dans lesquels nous commençons à travailler très concrètement, de façon à renforcer la coopération entre la République tchèque et les États-Unis et à obtenir rapidement des résultats concrets.
Mais comment expliquer les errements de cette coopération américano-tchèque dans le domaine de la défense? Igor Lukesh est professeur d'histoire et de relations internationales à l'université de Boston. Pour lui, les raisons de ces nombreux revirements ne sont pas à chercher du côté politique.
Avant toute chose, je refuse les explications politiques à ces décisions. Les Américains regardent ce centre comme faisant partie intégrante de leur système militaire. Mais en République tchèque, beaucoup sont ceux qui le perçoivent seulement comme une sorte d'institution culturelle qui doit définitivement ancrer le pays dans le contexte occidental. Les Américains changent d'opinion en fonction de la façon dont évoluent les aspects techniques du projet. L'opinion tchèque est peu susceptible de changer car elle n'est pas liée à une réalité technique, mais à une réalité culturelle. C'est pour cela qu'il règne depuis plusieurs années un gros malentendu entre les deux parties.
Pour la diplomatie russe, le retrait de Prague est considéré comme un succès. Jeudi dernier, l'ambassadeur russe à l'OTAN déclarait à l'agence de presse Interfax que la décision tchèque était à 50% le résultat de l'action de la diplomatie russe. Les 50% restants étaient, selon lui, liés à l'évolution de la stratégie américaine quant à l'élaboration de ce projet de radar antimissile. Pour autant, cet abandon ne semble pas avoir d'incidence sur les relations diplomatiques entre la Tchéquie et les États-Unis, si l'on en croit les récents propos de l'ambassadeur américain à Prague, Norman Eisen, pour qui ces relations sont en train de passer de bonnes à excellentes.
Il y a une dizaine de jours, dans le cadre du festival de World Music Respect, un groupe tchèque au nom très français s'est produit sur l'île de Štvanice. L'Arrache-cœur est composé de 3 membres. Daniel, František et Hanouch sont 3 jeunes musiciens enthousiastes, francophiles, à défaut d'être vraiment francophones. Comme le suggère le nom de ce groupe, c'est l'écrivain et trompettiste Boris Vian qui est à l'origine de la création de l'Arrache-cœur, ainsi que le rappelle František Tomášek à l'accordéon.
Ce nom est né parce que nous aimons tous Boris Vian, nous sommes de vrais fans. Et ce, même si on n'a pas de trompette dans notre groupe, et même si on ne joue pas du swing, en fait on est plutôt fan de ses livres.
Et en effet, l'Arrache-cœur, s'il ne fait pas de swing, s'attache au contraire à s'inscrire dans une tradition de musique française populaire et traditionnelle. C'est d'ailleurs autour de ce goût commun que les 3 musiciens se sont décidés à former le groupe, comme le précise Daniel Kahuda à la vielle à roue.
Nous jouons ensemble depuis l'année 2006. À l'origine, je voulais créer un groupe qui joue de la musique du centre de la France, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Au tout début, on avait un violoniste, mais cela n'a duré que le temps d'une répétition. František, que je connaissais déjà avant, a fait appel à Hanouch, et là, on a vu que ça marchait, que c'était bon.
Le son de l'Arrache-cœur est en effet particulier pour qui ne connaît pas la musique traditionnelle du centre de la France. Daniel Kahuda nous explique encore.
Il s'agit d'une musique des régions de l'Auvergne, du Berry et du Bourbonnais. Or, ce qui est particulier à cette zone, c'est l'utilisation de la vielle à roue, un instrument encore très vivant là-bas et dont je joue. Cette région est particulière justement par le fait qu'on y joue de la vielle sans interruption depuis 2 siècles. À cela viennent se rajouter la cornemuse et l'accordéon, parfois aussi la clarinette et le violon. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement de la musique ancienne, mais que de nombreux groupes actuels essaient de lui donner un souffle de modernité.
S'engouffrant dans la vague folk qui touche aussi la République tchèque, l'Arrache-Cœur s'efforce donc également d'intégrer cette musique populaire au goût du jour. En décembre 2010, le groupe a sorti son tout premier album intitulé Le Poulet Noir. Si leurs compositions sont exclusivement instrumentales, une question reste donc en suspens. Hormis le goût pour les livres de Vian, l'écriture de cet écrivain hors norme a-t-elle pu avoir une influence sur une musique qui n'a pas de texte? Hanush Axman à la clarinette et au saxophone soprano.
Je pense qu'il y a malgré tout un lien avec Vian. Comme chez lui, nos compositions sont assez ludiques, que ce soit dans les titres que nous donnons à celle-ci ou dans notre musique elle-même. Parfois, c'est intégré dans des compositions, parfois il n'y a pas d'influence du tout, mais on s'amuse assez à jouer par exemple avec des motifs populaires qu'on réutilise différemment.
Voilà, et pour connaître les prochaines dates de l'Arrache-Cœur, c'est au http://bandzone.cz/l'Arrache-Cœur. Et pour découvrir un peu plus la musique de l'Arrache-Cœur, pour ceux qui nous écoutent en direct, restez avec nous, ce sera après la rubrique sport. La rubrique sport, on y passe tout de suite, et comme chaque lundi, c'est une rubrique sportive au sommaire de laquelle figurent notamment football et hockey sur glace. En football, la République tchèque s'est qualifiée pour les demi-finales du championnat d'Europe Espoir, tandis qu'en hockey sur glace, 2 joueurs tchèques ont remporté avec les Bruins de Boston la coupe Stanley, le trophée le plus prestigieux qui existe en hockey sur glace et qui récompense l'équipe vainqueur de la NHL, la célèbre ligue nord-américaine. Guillaume Narguet.
Sport en République tchèque.
On commence avec du football. L'équipe de République tchèque Espoir des moins de 21 ans peut non seulement continuer à rêver un deuxième titre continental après celui conquis par la génération de Petr Čech en 2002, mais elle peut également surtout continuer à rêver à une participation au tournoi des Jeux Olympiques de Londres en 2012. En battant l'Angleterre 2-1 dimanche soir à Vibor, les juniors tchèques se sont en effet qualifiés pour les demi-finales du championnat d'Europe qui se tient actuellement au Danemark. Après une victoire contre l'Ukraine 2-1, lors de leur premier match et suivi d'une défaite contre l'Espagne 2-0, les Lionceaux, comme sont surnommés les Espoirs tchèques, ont remporté contre l'Albion leur 3e et dernier match d'une poule à laquelle ils ont terminé à la 2e place avec un total de 6 points, derrière donc l'intouchable Espagne. Sans être immérité, la qualification tchèque aux dépens de l'Angleterre a cependant tenu du petit miracle. Mené au score depuis la 76e minute, les joueurs de Jakub Dovalil, qui savaient qu'un match nul leur suffisait pour se qualifier, ont égalisé à 2 minutes de la fin du temps réglementaire grâce à un but de leur attaquant Jan Chamosta, joker entré en jeu 5 minutes auparavant. Et 5 minutes plus tard, le même Chamosta était l'auteur de la passe décisive qui permettait à Tomáš Pekárt, lui aussi remplaçant au coup d'envoi, d'assommer définitivement les Anglais, à la plus grande satisfaction de l'entraîneur Jakub Dovalil.
Je pense que nous avons fait un bon match, mais malheureusement nous avons encaissé ce but en deuxième mi-temps sur une petite erreur d'inattention. Le plus important était de ne pas paniquer en fin de match pour recoller au score. Le double changement avec les montées au jeu de nos 2 attaquants a porté ses fruits. Leurs 2 buts confirment la profondeur de notre banc de touche.
Trop attentifs et même parfois passifs en deuxième mi-temps, les juniors tchèques ont joué avec le feu et l'ouverture du score anglaise, synonyme d'élimination, n'a alors été que la conséquence logique d'un jeu trop défensif. Menés et donc dans l'obligation de marquer pour se qualifier, les tchèques ont toutefois su réagir de la meilleure des manières, même si la réussite a été de leur côté, comme le reconnaissait un des héros du match, l'auteur du 2e but, Tomáš Pekárt.
Nous
y avons cru jusqu'au bout. On voyait bien que les Anglais n'étaient pas aussi forts que les Espagnols et qu'il y avait largement la place pour faire au moins un match nul. Nous aurions été vraiment très déçus si nous avions été éliminés de cette manière par une équipe qui ne nous était pas supérieure. Mais il faut aussi reconnaître que les dieux du football étaient un peu avec nous ce soir et nous pouvons donc commencer à penser à notre demi-finale.
En demi-finale, mercredi soir, la République tchèque affrontera la Suisse, vainqueur de ses trois matchs sans encaisser le moindre but dans l'autre groupe. En cas de victoire, elle serait assurée d'être qualifiée pour le tournoi olympique de Londres l'année prochaine. En finale, la République tchèque pourrait alors retrouver l'Espagne qui affrontera la Biélorussie dans l'autre demi-finale. Une Espagne impressionnante de facilité lors de sa victoire 2-0 contre la République tchèque mercredi dernier et qui fait désormais figure de grande favorite pour le titre européen. Et puis, autre succès pour le football tchèque, le stade d'Eden, dans lequel évolue habituellement le Slavia de Prague et parfois la sélection nationale tchèque, sera le théâtre de la Super Coupe d'Europe en août 2013. Ce match oppose à chaque début de saison le vainqueur de la dernière Ligue des Champions au vainqueur de la Ligue Europa et donne le coup d'envoi de la nouvelle saison des Coupes européennes. Un événement de prestige donc pour Prague et ce nouveau stade d'une capacité de près de 21 000 places depuis qu'elle est passée en match unique en 1998, la Supercoupe de l'UEFA est organisée chaque année au stade Louis II de Monaco. Mais pour le changement prévu à partir de 2013, la première se passera donc à Prague, comme l'a annoncé l'UEFA en fin de semaine dernière et comme s'en est félicité bien entendu le président de la Fédération tchèque de football, Ivan Hašek. On l'écoute.
Nous étions au courant de la décision prise en notre faveur depuis quelque temps déjà. C'est un succès diplomatique pour nous. C'est aussi une forme de consolation puisque l'UEFA a récemment décidé de ne pas confier l'organisation du championnat d'Europe Espoir en 2013 à la République tchèque. Nous avons été aussi à l'origine de l'idée d'organiser la Supercoupe d'Europe dans des endroits différents chaque année. Le fait que Prague soit une belle ville au centre de l'Europe a certainement joué en notre faveur, comme le fait d'avoir déjà organisé certaines compétitions comme le championnat d'Europe des moins de 17 ans.
Et puis on termine avec un autre grand succès pour le sport et plus particulièrement pour le hockey tchèque. Deux joueurs tchèques ont en effet remporté la Coupe Stanley la semaine dernière avec les Bruins de Boston. La Coupe Stanley récompense le vainqueur des séries éliminatoires, les playoffs de la saison de la prestigieuse NHL, la Ligue nord-américaine de hockey sur glace. Tout sport professionnel confondu, il s'agit du plus ancien trophée décerné en Amérique du Nord. Le défenseur Tomáš Kaberle et l'attaquant David Krejčí ont activement contribué à la nette victoire 4-0 obtenue par Boston sur la glace des Canucks de Vancouver mercredi dernier dans le 7e et dernier match décisif de la finale. Grâce à ce succès au Canada, Boston a ainsi remporté la série de la finale 4-3 et ce au plus grand bonheur de Tomáš Kaberle.
C'est incroyable, franchement je ne croyais pas que cela m'arriverait un jour. Après toutes les années passées à Toronto où nous avons rarement participé aux playoffs, je suis très content que Boston m'ait donné une chance cette saison. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus tellement je suis heureux, je passe le bonjour à tout le monde au pays, en Tchéquie.
À 33 ans, Tomáš Kaberle, un des meilleurs défenseurs tchèques de la dernière décennie, a ainsi enfin rejoint son grand frère František, vainqueur lui aussi de la Coupe Stanley en 2006 avec Carolina. Mais un des grands héros de la finale et des playoffs a été David Krejčí. À 25 ans, le centre tchèque a été l'auteur de 12 buts durant les playoffs, améliorant ainsi d'un but le record du légendaire Jaromír Jágr, jusqu'alors meilleur scoreur tchèque de l'histoire en Coupe Stanley. David Krejčí a également été tout simplement le meilleur buteur de ces play-off, une raison supplémentaire à sa très grande joie.
Je sais qu'il y a beaucoup de monde au pays qui a passé une nuit blanche pour regarder ce match décisif. Je ne les oublie pas et je les en remercie. Je suis déjà impatient de ramener cette coupe Stanley dans ma ville natale de Sternberg, de la montrer à tout le monde et de fêter ça avec tous ceux qui m'ont soutenu.
Voilà. Voilà, et puis précisons encore que si cela faisait deux saisons qu'un joueur tchèque n'avait plus remporté la Coupe Stanley, la dernière victoire des Bruins de Boston remontait, elle, à 1972.
C'est la fin des émissions en français de Radio Prague. Vous le savez, ces émissions, vous pouvez les écouter en streaming, également les télécharger en podcast ou bien les lire sous forme d'articles sur notre site, le www.radio.cz. Merci, bon vent, ahoy.